Bonjour et merci pour une présence tellement numérique. Je vais essayer de faire cette conférence en français. C'est très difficile pour moi parce que je ne connais pas très bien la grammaire, ou c'est-à-dire j'ai oublié presque tout ce que j'ai appris à l'école. Et j'ai la tendance d'inventer des mots qui sonnent comme le français, mais ils ne sont pas le français. Alors si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est parce que j'étais en train d'inventer quelque chose. Je ne savais pas quelle espèce de public je voudrais trouver. Et j'ai décidé de refaire une conférence, une leçon, sur l'histoire du son, et, que j'ai déjà fait il y a un an à Aberdeen, mais je le refais complètement. Et c'est une histoire personnelle, c'est l'histoire de l'artiste, pas des théoriciens, on dit des... Oui. Et alors, si quelqu'un vous dit que le mot « sound art » était prononcé la première fois en 67, ne croyez pas, ce n'est pas vrai. Et aussi Max Neuhaus, il n'a pas inventé le « sound art », ce n'est pas vrai. C'est toujours une chose collective qui, à la fin, va faire naître un mouvement, mais ce n'est pas une seule personne. Et du reste, je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup Max Neuhaus, c'est un ami, mais... Et je crois que la situation est toujours très complexe pour faire naître un mouvement d'art. J'ai demandé à deux amis avec lesquels je travaille depuis longtemps et qui sont des collègues. Et un, c'est Bernhard Leitner de Vienne, et originellement un architecte, qui en ce moment a une exposition très, très belle à Berlin, au musée de Berlin, Hamburger Bahnhof. Et l'autre, c'est Hans-Peter Kuhn, un homme qui a commencé originalement avec le théâtre. Il a fait beaucoup, beaucoup de productions avec Robert Wilson. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait les années 70, on peut dire 70. Bon. Hein? 70, oui, les numéros, c'est très compliqué en France. Alors, en 70, en 80, en 90, en 2000, et donnez-moi deux travaux de chaque 10 années. Et ils ont collaboré, m'ont donné ça, et j'ai essayé de les... comment dire en français bon, de faire des relations entre leurs travaux et mon travaux en la même période. Et... Au commencement, je ne vais pas jouer beaucoup de musique parce que je déteste ces petites bits and bytes, des choses très courtes, parce que surtout pour l'installation sonore, ce n'est pas la présentation en face de quelque chose. C'est-à-dire, moi, je déteste cette situation. Je suis ici en stage. Vous êtes beaucoup, hein, moi, je suis toute seule. Hein, ça, c'est déjà difficile. Vous êtes ici parce que vous attendez beaucoup de moi. Moi, je dois donner beaucoup pour vous rendre content, et les organisateurs et le chef de l'école et tout ça. Et pour une installation sonore, c'est différent parce que vous êtes là tout seul. Vous êtes avec votre propre temps. Vous pouvez décider comment vous voulez bouger, combien de temps vous voulez passer, si vous voulez retourner. Il n'y a pas, en général, un commencement et un fin. Vous avez vu le travail de Max Neuhaus ce matin. Vous pouvez passer tout le temps que vous voulez. Et c'est une situation que je voulais créer dès que j'ai commencé à faire de la musique. Mais il n'y avait pas les possibilités. Et aussi, je ne connais rien parce que notre... enseignement à l'Académie des Beaux-Arts et plutôt plus tard au conservatoire, c'était très, très classique, très traditionnel. Et je dois dire aussi que les personnes que je vais présenter ce soir, et je dis ça avec beaucoup de plaisir, et aussi pour ne pas faire tomber toutes les femmes ici dans la dépression plus grande, parce que tout ce matin, il y a eu seulement les noms dons, artistes, ça va changer maintenant. Je vais présenter les noms, par exemple, Daniel Lockwood, Eliane Radigue, Pauline Oliveros et tous ces autres grands personnages qui m'ont aidé beaucoup dans les années 70 à New York. J'ai passé pas mal de temps là. Bon, dans les années 70, et je commence avec cette période-là, peut-être vous ne pouvez même pas imaginer les choses qu'on a eues à disposition. il n'y avait pas l'ordinateur. C'est presque impossible aujourd'hui d'imaginer. Mais les ordinateurs, surtout les ordinateurs portables, hein, il y a seulement depuis, bon, à bon prix, je crois, depuis 15 ans peut-être. Les années 70, il y a des grands magnétophones. On a fait toute la musique comme maître, comment on dit, j'ai écrit ça pour vous. Comment placer l'ampoule dans la douille, c'est-à-dire on a tourné les boutons, hein, tout le temps. On a coupé les bandes magnétiques avec la main. On n'avait pas la possibilité de faire quelque chose durer de 2 heures ou 3 heures comme aujourd'hui. C'était des conditions complètement différentes, pas mieux et pas beaucoup plus difficile d'aujourd'hui, mais on a changé, disons, l'esthétique d'aujourd'hui aussi à cause du matériau qu'on a. C'est-à-dire, ce que vous voyez maintenant, ça, c'est Bernhard Leitner. Il a vécu à New York comme architecte, mais très, très tôt dans son loft, il a commencé à faire des expériments. Comment on écoute? Et qu'est-ce que vous voyez? Il y a du bois, des pièces de bois, et il y a des haut-parleurs. Et il a eu des bandes, des magnétophones, voilà, avec des bandes qui sont allées en même temps, mais naturellement pas exactement en même temps, parce que ce n'était pas possible. Et il s'est passé, c'est-à-dire il a vu comment j'écoute quand je suis là au fond, qu'est-ce qui se passe quand je me passe, quand j'avance, quand je retourne, etc. Et ça, c'est une pièce qui aujourd'hui aussi est historique. C'est une chaise sonore pour écouter, aussi, je crois, de 73. Et vous voyez, il y a un haut-parleur en bas, sous les legs, sous les jambes, et un là. Et c'était des sons assez bas, comme une vibration, et on pouvait s'asseoir et écouter avec le corps. Et je n'ai pas pu porter des exemples sonores de Bernhard Leitner parce qu'il il dit que ce qu'on sent, qu'on écoute avec ses sculptures sonores, ses espaces sonores, on ne peut pas transférer sur un disque. Il y a un seul disque qui est très beau du reste de Bernhard Leitner, mais on ne peut seulement entendre, écouter avec un casque. Une pièce de théâtre à Berlin. Et Hans-Peter Kuhn m'a dit, il n'a pas étudié musique, il a commencé à travailler, comme j'ai dit, avec Robert Wilson, et cette pièce ici, c'est Death and Destruction. Et il avait proposé de faire un expériment avec les voix des acteurs, c'est-à-dire les acteurs, ils ont des micropods, des microphones portables, et quand ils sont ici, comme moi maintenant je parle, vous ne m'écoutez pas ici, mais en arrière ou dans des autres lieux du théâtre. Et déjà pour cette pièce-là, il y avait beaucoup de micropods, je ne sais pas, il m'a dit que pour ce temps-là, c'était énormément. Et il a essayé, dans un certain sens, de transformer le théâtre de cette division classique traditionnelle du stage et du public en quelque chose qui est dans l'espace. Alors vous imaginez les acteurs qui parlent ici, mais vous les écoutez dans des lieux différents de l'espace, de la salle du théâtre. Alors moi, le problème, c'était que moi, j'ai étudié musique, pas architecture et pas des autres choses. Et je pensais pour une certaine période de devenir une flûtiste. J'étais pas mal, j'ai fait des concerts. Mais après avoir rencontré des autres artistes, des artistes amis Fluxus, après avoir passé pas mal de temps à New York, et aussi pour mon propre instinct. Je savais que je ne pouvais pas être une bonne flûtiste. Et aussi, je n'avais pas envie d'étudier 8 heures par jour les mêmes pièces des autres compositeurs, qui en cette période-là, c'était comme un boulet, et comme ça, et vous jouez, et vous travaillez, et ça sonne toujours très... Voilà, je n'étais pas très contente de cette vie. Alors, à la fin de mes études, c'était à Milan où j'ai vécu beaucoup de temps en Italie. Et aussi, après mes études avec Franco Donatoni, on a toujours litigé tout le temps, mais c'était formidable de travailler avec lui parce qu'il était très sévère. J'ai commencé une série de performances qui s'appelle Emergency Solos, les solos d'émergence, et c'était jouer la flûte avec des choses qui le rendaient impossible, vous le voyez bien. Voilà une autre pièce où je respire à travers, à travers une masque de gaz, et je fais ça tout le temps entre je tombe presque par terre parce que je n'ai plus de l'air. Je vous fais faire ça pour vous dire que comme la parole Sound Art n'était pas encore à notre connaissance, malheureusement, on ne pouvait pas faire de Sound Art, mais on a fait les choses qu'on cherchait de faire, des expériments avec l'architecture, avec le propre corps. Naturellement, en ce moment-là, il y avait aussi le body art. Vous connaissez toutes les personnes comme, Marina Abramović et Ulrike Rosenbach, des autres. On a travaillé souvent ensemble. Et, alors, pour moi, c'était la performance en ce moment-là pour laisser définitivement la vie classique de la musique. Voilà, une autre pièce dédiée à John Cage qui m'a influencé beaucoup. Je l'ai visité beaucoup les années 70 à New York et j'ai dédié cette pièce. C'est une flûte préparée avec un microphone inséré et des cymbals. Des choses que j'avais, des cymbales sur la main. Les années 75-76, j'ai commencé à travailler avec un artiste italien, Fabrizio Plessi, peut-être quelqu'un le connaît, un artiste vidéo très connu toujours. Et on a fait quelque chose que je pourrais dire sont déjà des installations dans un certain sens. Nous, on a appelé ça des video concerts, des concerts vidéo. Et aussi, les vidéos en ce temps-là, ce n'était pas portable, c'était lourd, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et si vous voyez de l'art vidéo des années 70, c'était toujours incroyable avec les peu moyens qu'on avait. On a fait grand-chose quand même. Alors ici, vous voyez, et c'est nous, Plessy et moi, on joue des instruments très drôles, des instruments inventés. Moi, j'ai une flûte. Et je ne sais pas ce qu'il fait, quelque chose, je crois, un ventilateur. Oui, il a un ventilateur avec un microphone à contact. Alors, et on joue ça, et en même temps, il y a deux personnes avec une caméra vidéo qui transfèrent ça sur des moniteurs. Et le public peut voir soit nous-mêmes comme personnes, soit des détails qui donnent une réalité complètement différente. Et on a fait beaucoup, beaucoup de concerts comme ça. Il y a aussi des disques qui sont maintenant, après les vinyles, il n'était plus possible à trouver sortis. Et comme ça, pour plusieurs ans, on a fait ces concerts vidéo. Et quand le concert même était fini, les enregistrements sont restés sur les moniteurs comme une installation. Oui, il y avait l'amplification des sons. Oui, naturellement, j'ai oublié de dire ça. Alors, il y avait les vidéos, il y avait l'amplification des sons, c'est très important parce que c'est des microsons et qui, après quelques temps, est devenu très, très fort. Oui, alors c'était ça, le mini and the maxi world. Maintenant, c'est 10 ans plus tard. On était peut-être moins fou dans un certain sens. On a devenu plus on était déjà plus dans les musées et on était plus un peu tout petit peu plus reconnu. Voilà, alors Bernhard Leitner a été invité à la Documenta, je crois que vous connaissez tous cette exposition à Kassel, et il a fait ce cube sonore avec une chaise où on pouvait se mettre seulement une personne. Et les haut-parleurs, maintenant, ils sont tout autour de cet édifice. Alors, c'est une construction, c'est une architecture, mais c'est aussi une place pour la personne, pour le corps. Et une autre pièce à Paris que peut-être vous connaissez. Non? Quelqu'un l'a vue, cette pièce? Oui, c'est le cylindre sonore. Le cylindre sonore, c'est là, dans ces jardins où il y avait une fois les abattoirs. La Villette, voilà, merci. Oui. C'est à Villette et il y a 24 haut-parleurs avec des sons qui étaient originellement aussi sur des magnétophones. Maintenant, c'est une version digitalisée qui est toujours là. Et c'est un jardin de bambou. Et on descend, on peut vraiment... on peut rester dans cet édifice avec les haut-parleurs et ce sont des sons qui sont des instruments, mais semblent aussi très naturels et c'est très, très beau de rester là. Alors, quand vous êtes à Paris, il faut que vous allez le voir parce que c'est une pièce permanente. Voilà, Hans-Peter Kuhn, toujours dans l'ordre. Il a cessé de travailler avec le théâtre et avec Robert Wilson. Et ça, c'est une pièce à Berlin, au port. Et il y avait des bris de glace, des verres, et il a mis des néons cachés sous ces verres. Aussi, il y avait caché plusieurs haut-parleurs. Je dois regarder un moment. Je ne sais pas combien, mais des haut-parleurs qui diffusaient des sons qu'il avait enregistrés avant, des sons de tous les jours, les sons quotidiens. Mais pour lui, c'est typique que les sons bougent avec une vitesse énorme. Alors, vous imaginez ça avec la lumière et des sons qui bougeaient autour. Mais quand même, comme il est homme de théâtre, et il y avait une maison très haut, juste à côté. Et dans cette maison, Hitler avait laissé toutes les œuvres d'art qu'il avait prises. Et il a eu un acteur tout en haut, sur le toit de cette maison, avec un mégaphone, qui a récité des textes de cette période-là. Alors c'était comme une installation avec un élément de théâtre en même temps. Et voilà, c'est une chose à moi. On ne voit pas tellement bien, mais comme vous pouvez imaginer. C'est deux labyrinthes qui sont faits sur deux murs avec du câble électrique. C'est un travail que j'ai commencé à la fin des années 70, mais la première présentation, j'étais juste en 1980 au Sicilie. Et ce que vous voyez, ce n'est pas seulement du câble, mais c'est aussi une fond sonore. Les câbles sont comme une bobine, c'est-à-dire ils entrent dans la salle, ils sont sur le mur et retournent. Il n'y a pas des haut-parleurs. Oui. Et vous pouvez voir quand je suis ici l'image, oui. Alors je ne vais pas tourner tout le temps. Alors, c'est mieux. Et en ce temps-là, j'avais étudié musique électronique. Au conservatoire de Milan et j'ai eu des problèmes parce que je pensais que c'était très annoyant ce que je pouvais apprendre. C'était seulement de copier des voix, de faire des choses, de copier des instruments et de les rendre plus haut, plus bas. Je pensais que j'étais pas ce que les possibilités électroniques sont vraiment. Alors, j'ai litigé encore. En ce temps, j'ai litigé beaucoup. Et on m'a dit, Mademoiselle Kubisch, laissez notre classe et allez où vous voulez. Et j'ai fait ça. Je suis allée à l'université et pour 2 ans, j'ai étudié l'électronique. Pas très bien parce que mon cerveau, c'est pas vraiment très mathématique. Mais quand même, j'ai compris comment fonctionnent beaucoup de choses. Je veux dire, de toutes mes études, ça, c'était la chose plus importante pour moi. Peut-être aussi le temps avec Lona Tony. Et alors, ça fonctionne à l'induction magnétique, c'est-à-dire il y a un champ magnétique, il y a une bobine où il y a un son dedans, Et cette câble forme une bobine. Alors, si vous venez près de ça avec une autre bobine, les sons, pour le dire très simplement, ils vont d'un champ à l'autre. Alors, dans ces petites cubes que vous voyez, c'est un amplificateur téléphonique que j'avais modifié. Il y a aussi des petites bobines de métal. Et les gens sont entrés dans cette chambre. Ils avaient ces petites cubes. Et magiquement, du cube venait, on pouvait écouter le son qui était dans le câble. C'est très difficile d'expliquer en français, mais vous allez voir plus tard les autres exemples comment ça va. Ah, ici, c'est un travail à Lyon. C'était une fabrique qui est plus tard devenue le Goethe Institut. Et je pouvais faire tout ce que je voulais. J'ai tracé une machine qui était là, qui était disparue. Et par exemple, les gens, quand ils venaient, ils pouvaient écouter le son de cette machine. Un autre travail, et j'en ai fait beaucoup en cette période-là, c'est Ars Electronica, pas encore tellement virtuel comme aujourd'hui. Vous voyez un labyrinthe, et chaque couleur, c'est un autre son. Et les gens pouvaient trouver le centre à travers écoutant les sons. La réalisation, c'est surtout comme art pauvre, c'est seulement des bois, des câbles électriques. Et vous voyez une personne avec un casque, c'est un casque que moi j'avais développé avec un ingénieur et construit. Et au lieu d'avoir ces petits cubes, on pouvait maintenant seulement mettre le casque sans câble, naturellement. Et selon le propre mouvement, selon comment on bougeait, on pouvait capter tous les champs magnétiques différents. Alors, ça semble très, très simple. J'aime beaucoup la simplicité sur certaines fois pour faire des installations. Et aussi, j'aime beaucoup faire des choses avec la main. J'aime beaucoup vraiment toujours être là avec mes assistants et faire la chose pratique, faire vraiment les choses matérielles. Et voilà, maintenant encore 10 ans. Les années 90, naturellement, il y avait une technique déjà très, très différente. Il y avait les ordinateurs déjà, les MIDI channels. Il y avait, bon, I have to read this in English. You had multi-channel technique, MIDI interface, hard disk recording, and a series of electronic instruments like the Synthi, for example. Naturellement, le travail d'une source permanente est devenu beaucoup, beaucoup plus facile qu'avant. Bernhard Leitner a commencé à travailler sur des grands plaques de métal, oui. Par exemple, ici, c'est un travail que vous voyez des haut-parleurs qui reçoivent à travers l'amplification des vibrations assez basses. Ils transmettent ça sur les plaques de métal et les plaques de métal fonctionnent comme des haut-parleurs. Et si vous passez, selon votre mouvement, entre tous ces... ils sont très grands, 40 mètres, 4 mètres de hauteur. Et je crois ici, c'est un travail avec 40 plaques. Alors, vous vous promenez comme dans une forêt, oui, comme dans une forêt de sources sonores, de... c'est très magique parce que selon votre mouvement, vous écoutez toujours quelque chose de différent. Voilà un grand travail de Hans-Peter Kuhn. Ça, c'est à New York. Il m'a dit qu'il a essayé de réaliser ça depuis 10 ans. Finalement, il a réussi. C'est des cubes de bois qui sont peints et il y a des très forts... des éclairages très très forts qui avaient la même couleur que la peinture sur le bois. Et aussi, il y avait des sons très vite, toujours, comme il fait toujours, des sons qui ont bougé de l'un côté à l'autre. Le nom de ce travail est The Pier. Et c'était 72 éclairages. C'était 9 de ces boîtes. Et 9 haut-parleurs très très forts. Les gens ne pouvaient pas se promener là directement, mais dans un autre pier. Pier, how you say that? Jeté. Et comme ça, on n'a pas seulement écouté le son directement des haut-parleurs, mais aussi la réflexion de l'eau. Ça, c'est très important, je crois. Si c'est possible maintenant, c'est possible d'interrompre un moment et voir le DVD ou c'est compliqué? Si c'est compliqué, je le peux faire voir à la fin. Non, ça va? Parce que comme ça, je voudrais vous faire voir un travail que j'ai fait en Allemagne avec les câbles électriques, avec l'induction. Et je crois que c'est plus facile de le voir que de l'expliquer pour moi. C'est en Allemagne, c'est en allemand, mais je peux traduire. Et c'était une demande de l'Université de Berlin. Ils ont un institut qui était un institut pour créer des bateaux, mais du 19e siècle. Et alors, voilà. Et c'était pour le festival transmédial. Et on a testé toutes les choses qu'on a fait avec l'eau. C'est un travail à l'induction magnétique. Alors ici, c'est le bassin. J'ai installé d'abord tous les câbles électriques. Alors j'ai choisi de prendre des câbles rouges, beaucoup, beaucoup de mètres, je crois 2000 km. 2000 mètres. Et quand c'était tout prêt, quand l'installation avec tous ces bobines était faite, on a laissé entrer l'eau. C'était un moment très spécial. Voilà. C'est le bassin plus petit. Il y a un autre bassin encore plus grand. Et les gens devaient mettre des rubber boots, du botton caoutchouc. Alors, c'était une installation pendant ce festival transmédial, je crois que j'ai déjà dit. Et ils ont reçu un casque sans fil, un casque à induction magnétique. Et toutes les histoires qu'ils allaient écouter à travers les fils rouges, c'était des choses de l'eau, des catastrophes, des choses des guerres, des choses historiques. Les histoires aussi, des choses assez terribles. Et la chose intéressante était qu'à part de leur propre son, du son des casques, ils avaient leur propre son avec de l'eau. Voilà un peu les sons qu'ils écoutaient. Ils pouvaient aussi choisir une histoire spéciale en levant le câble rouge de l'eau. Ils pouvaient aussi combiner deux histoires, si vous voulez. Et à la fin, tous les câbles allaient en eau comme une waterfall, comme une chute d'eau. Et on pouvait passer, écouter tout ensemble. Et si je dis que le moment plus magique pour moi, ou le plus beau, est un moment avant que l'installation s'ouvre et j'ai fini 10 minutes avant et j'ai 10 minutes seule avec mon travail. Et pour l'écouter, pour le voir. Et après, quand les gens entrent, c'est toujours comme... on a laissé ce travail, on l'a quitté déjà. Mais ce moment-là, j'aime beaucoup. Voilà. Merci. Je ne travaille pas seulement avec le son, mais aussi avec la lumière. Ah. Maintenant, c'est trop vite. Vous pouvez voir. Il faut encore mettre... pour faire de l'argent, parce que j'ai commencé à enseigner assez tard, j'ai travaillé beaucoup avec le théâtre et surtout avec les compagnies de danse. J'ai composé des pièces pour eux. Et en travaillant avec les compagnies de danse, j'ai dû être souvent là avec les rehearsals, les répétitions. Et comme ça, j'ai vu combien d'importance a la lumière pour ce qu'on représente. Je me suis intéressée surtout à la lumière UV, ultraviolet light, parce que c'est une lumière que, oui, vous connaissez peut-être des discos, vous vous rappelez tous les gens qui ont les chemises blanches terribles avec cette lumière ultraviolette. Mais la lumière ultraviolette est très intéressante parce que normalement, c'est utilisé dans des contextes bien différents, comme par exemple la recherche scientifique, la restauration des peintures, de la police, etc., etc. Alors, c'est une lumière avec des fréquences très, très hautes. Et je l'ai utilisé parce que je pense que c'est parallèle comme le son. C'est là ou ce n'est pas là et ça disparaît. Vous pouvez faire toute une salle, allumer la lumière, éteindre l'électricité, ça semble normal. Et 2 secondes après, vous avez mis la lumière et le son, et c'est une place très, très différente. J'ai commencé à faire une série, et maintenant je crois il y a 30 installations de ça, qui ne change pas vraiment quelque chose dans une salle. Il n'y a pas des objets, il n'y a pas des grandes choses, mais quand même, les édifices sont bien changés. La série s'appelle Consecutio Temporum, dans le parcours du temps. Et beaucoup de ces espaces, ce sont des espaces laissés, oubliés, démontés, certaines fois des églises, certaines fois des maisons privées, certaines fois des choses détruites dans la guerre. Et si c'était une factory, une usine de glace, pas de glace à manger, mais de glace de l'eau froide. Et ils ont dû fermer les années 50 parce que c'était assez détruit et personne n'avait plus besoin. Ils avaient des frigos, alors on n'avait plus besoin de ces choses-là. J'étais intéressée au mur. Alors j'ai mis ces lumières ultraviolettes avec un simple cadre. Et aussi, il y avait des sons de verre. Et ce n'était pas des sons de verre comme quand vous avez un petit verre et vous tournez les doigts sur cette verre d'eau. Mais c'était un instrument inventé par Benjamin Franklin, glace harmonica, que j'avais découvert dans le musée des instruments à Berlin. J'ai eu le permis de l'enregistrer et je vais vous jouer maintenant quelques sons. C'est un instrument très, très intéressant parce que ça fonctionne à travers les vibrations d'un boule de verre qui tourne. Et c'est assez grand. Et en cette période-là, quand on l'a inventé, c'était, même Mozart, il a écrit quelque chose. C'était surtout des jeunes filles qui ont joué ça. Et après quelques temps, on a vu qu'ils étaient tous, qu'ils devenaient folles. Hein? Et parce que ça semblait que les vibrations très très fortes ont dérangé quelque chose dans les cerveaux. C'était aussi la période du mesmerisme et des autres choses du 19e siècle, du commencement du 19e siècle. Et quand j'ai essayé de jouer cet instrument, j'ai compris que ce n'était pas seulement des histoires, mais c'était quelque chose de vrai, parce que la vibration sur le corps est tellement forte qu'on joue ça que c'est presque impossible de jouer pour plus de 10 minutes. Alors ici, il y avait la lumière ultraviolette qui formait des cubes de verre ou de glace, de frozen water, oui, de glace, seulement métaphorique naturellement. Et il y avait aussi les sons distribués dans cette usine avec ces sons de verre. Et je vais vous jouer un moment ça. Alors, ce que vous écoutez, ce n'est pas l'installation, parce que je crois que ça ne fait pas beaucoup de sens d'enregistrer une installation avec, je ne sais pas, 20 ou pas l'heure, mais une composition que j'ai faite. Qui s'appelle aussi, c'est aussi basé sur cette glace harmonica, mais vous avez une idée du son. Thank you. Je vais laisser ces disques dans votre bibliothèque. Je crois que vous en avez aussi des disques. Comme ça, si vous voulez l'écouter, vous pouvez le prendre. C'est une composition d'une heure, alors c'est un peu long maintenant de la jouer tout. Et voilà un peu des autres images, seulement des travaux avec la lumière. Certaines fois aussi, j'utilise un pigment qui est fait pour moi. Et c'est cela à la qualité d'être... d'être activé par la lumière ultraviolette et aussi de diffondre la lumière après un indirect light source, une source de lumière indirecte diffusée. Ça diffuse aussi. Ici, par exemple, vous voyez ce pigment. Et c'est malheureusement très cher parce qu'un kilo, ça coûte maintenant 1400 euros. Et alors, je ne peux pas faire tellement beaucoup la prochaine. Et vous vous rappelez des explications que j'ai données des bobines. Alors ici, c'est un travail que j'ai fait à Berlin à la fin des années, je crois, c'était 98, je crois. C'était un garage à Potsdamer Platz. Vous savez, Potsdamer Platz, c'est ce quartier à Berlin où il n'y avait rien. C'était tout détruit. Et après, c'est le centre, on pourrait dire, du capitalisme aujourd'hui avec tous les grands centrales de Sony, etc. Mais avant de construire tous ces édifices, on a dû enlever l'eau. C'était tout plein de l'eau. Et pour enlever l'eau, on a dû... travailler pour des mois. Et on a eu vraiment des bassins avec les gens qui devaient travailler pour ça. Et quand je suis entrée la première fois dans ce garage, vous savez, les garages où vous stationnez vos voitures normales, c'est un garage comme ça, mais encore en construction, il y avait partout l'eau. Et j'ai dit, bon, je vais faire un travail avec les sons de l'eau et de ma bibliothèque de sons et aussi des sons que j'ai enregistrés en lieu et dans d'autres. J'ai fait un travail avec 40 sons de l'eau que vous pouvez seulement écouter à travers l'induction électromagnétique. Alors, les gens ont eu un casque, ils sont entrés, comme vous avez vu, ils sont entrés dans l'eau. Et ils pouvaient se promener, c'est une longueur de 200 mètres, et chaque colonne a un son différent. Alors, si vous allez très, très vite, vous avez une séquence de sons très vite de l'eau. Si vous allez très, très lentement, vous avez les sons qui se mixent très lentement. L'idée, c'est toujours que le visiteur, c'est aussi un compositeur. Et il peut même décider ce qu'il écoute. Il peut même décider, à travers son mouvement, comment les choses se mixent. Et merci. Alors, le jour du vernissage, de nouveau, l'eau est entrée. Ce n'était pas très bien pour le propriétaire, mais très bien pour moi, parce que c'était une démonstration ultérieure de vraiment le Potsdamer Platz basé sur l'eau. Voilà. La prochaine. Et naturellement, je n'ai pas seulement travaillé avec ce système d'induction magnétique, mais aussi avec, je ne sais pas pourquoi la qualité n'est pas très bonne, mais aussi on ne voit pas tout l'image, c'est drôle. Parce que c'est seulement la moitié, mais quand même, je vais continuer à parler. Et, autrefois, vous devez imaginer l'autre moitié. Alors, je suis très attirée moi-même des choses techniques qui sont destinées à faire quelque chose et j'aimerais bien le changer. J'ai trouvé, par exemple, des petites choses. C'est tout. Ultrasoniques qui sont là pour attaquer les animaux. Ultrasonic, ultrason. Et je les ai utilisés pour mes travaux. Ici, c'est un travail au Japon. Je travaille souvent aux pays de l'Est, du Far East, Japon, Corée, etc. J'étais toujours impressionnée au Japon de cette chose que d'un côté, ils ont toute cette technique et de l'autre côté, ils ont même des rites ou une manière de vivre qui est très traditionnelle. Et ici, c'était un travail dans un cloître, un Buddhist Center, Zen, et qui font aussi des expositions de temps en temps. Le premier, c'était du reste John Cage qui a exposé là. Alors, vous voyez un dessin. Je fais toujours des dessins techniques avant de réaliser mes installations parce qu'il faut vraiment être très précis. Vous avez de l'argent, vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous avez des invitations et il faut vraiment que les choses marchent. Certaines fois, peut-être comme allemand, je suis même trop sévère avec ça, mais je pense que c'est très, très important d'avoir quand même une idée de combien de mètres de câbles vous avez besoin et comment tout ça marche. Et aussi, je dois dire que j'ai des assistants et aussi un ami ingénieur qui travaille, avec lequel je travaille depuis beaucoup d'années. Je ne pouvais jamais faire tout ce que je fais de seul. C'est pour ça que j'ai dit au commencement, je ne crois pas qu'un artiste seul peut faire tout ce qu'il fait et tout de seul faire un mouvement. C'est toujours une relation des gens, c'est beaucoup de ça. Voilà. Ici, vous voyez des cellules solaires qui sont en dehors du temple et qui captent la lumière. Ils calculent l'électricité et ils transforment à ces petites choses ultrasoniques qui sont là-dedans du temple. Vous voyez aussi que j'aime beaucoup travailler bien avec le câble. Vous ne voyez pas le câble, c'est bien caché ici dans ces fissures. Et dedans, la prochaine. Et ça, c'est maintenant trop bleu. Vraiment, ce qu'on voyait, c'était blanc et noir. Et bah, c'est une photo qui, quand on cherche de faire des photographies de la lumière ultraviolette, on ne met pas les filtres. Ça semble bleu. Je ne savais pas comment le photographier en ce temps-là. Alors, vous voyez, il y a des cercles qui sont des haut-parleurs sous un disque abrasif. Il y a tous ces câbles qui entrent comme des plantes dans la salle. Et ce que vous écoutez, c'est le son activé par la lumière du soleil en extérieur de ces petites choses ultrasoniques. Mais quand il n'y a pas assez d'électricité, ils commencent à être comme des crickets, comme des cigales. Bon, vous avez beaucoup de cigales, je crois, ici dans le sud. Alors, c'était quelque chose qui changeait tout le temps. Et les gens, c'était toujours ouvert le temple. Et les gens sont entrés en disant, je veux écouter la lumière. Et certaines personnes aussi pensaient que c'était vraiment des cicades que j'ai fait entrer ou qui sont enregistrées. Et ça, c'est un système entre l'espace de la nature et l'espace artificiel que j'aime beaucoup parce qu'il y a une part que je décide et une autre qui est aléatorique. Hein, voilà. Prochaine. Aléatoire, oui. Ici, il y a un détail de ce disque abrasif qui aussi il y a un peu de pigment. Stop. Merci. Ça va, Anne? Oui. Et vous voyez l'eau-parleur. Alors, en ce moment-là aussi, c'était un peu peut-être théâtral, mais c'était beaucoup plus simple que les photographies. C'était en dehors, c'est cellules solaires, et en dedans, cette image fait complètement des choses de tous les jours, ce câble, ces disques abrasifs qu'on utilise pour travailler sur les meubles normalement. Mais quand même, c'était quelque chose de bien changé. Et le prochain. Et voilà, c'est une pièce permanente. Je vais vous jouer aussi quelque chose, mais finalement avec les cloches. Et c'est une fabrique, Mass MoCA, qui aujourd'hui est un des musées plus grands des États-Unis. Ils ont beaucoup d'installations. Mais avant d'ouvrir, ils m'ont demandé, tu peux venir, tu as une idée, c'est encore une factory, une usine. Et comme j'ai travaillé dans beaucoup d'usines, naturellement, on a pensé que je pouvais peut-être faire quelque chose. Mais ce que j'ai vu, vous voyez là, il y a un tour comme d'une église, là, au centre. Et c'était pas une église, mais c'était un tour avec deux cloches. Et les cloches étaient là pour donner aux travailleurs le temps. C'est une usine fondée en 1850. Et ils ont dû fermer en 1950. Parce qu'il n'y avait plus assez de travail. Et c'était milliers et milliers de personnes qui ont perdu leur travail en même temps. Tous ces villages, ces petites villes, ont travaillé seulement pour cette usine. Et on m'a dit, et j'ai trouvé ça intéressant, que le son plus régulier, c'était le son des cloches qu'ils ont jouées tous les 15 minutes. Et quand l'usine était fermée, tout de suite aussi, il n'y avait plus le son de ces cloches. Alors le temps s'était disparu, le temps sonore s'était disparu. Prochaine. Alors, voilà, vous voyez ça, c'est un tour de l'usine. Alors, j'ai pensé, je pourrais faire quelque chose avec la nature qui remplace le travail. Et j'ai mis des cellules solaires noires, vous le voyez là, comme un frieze, comme une bande en eau sous les cloches. Les cloches étaient tout rouginées, on ne pouvait plus les bouger, mais avec les étudiants d'une conservatoire près de la ville, on les a frappées, on a fait beaucoup de bruit et on les a tout enregistrés. Et à la fin, j'ai plus de 800 samples de sons. Et alors, il y a un computer dedans qui, tous les 15 minutes, calcule la quantité de lumière et fait un choix entre toutes les possibles combinations de sons pour une série de sons de quelques secondes. Alors, quand il y a très peu de sons, il y a des sons très, très doux. Et quand il y a beaucoup de soleil, il y a des sons assez clairs. Et les gens, même sans regarder en dehors, ils savent pas seulement le temps, ils savent aussi quel temps il est. Et... encore? Ça, c'est les cloches. Vous voyez qu'on a dû travailler dur pour trouver encore des sons. Allez-y. Ici, les haut-parleurs aussi, c'était très difficile de trouver des haut-parleurs très, très forts parce qu'ils doivent aller vraiment pour plusieurs kilomètres. C'était vraiment voulu. C'est très rare de faire le son public comme ça, mais j'ai eu de la chance. Alors, il y a 4 haut-parleurs pour les 4 fenêtres et on les écoute vraiment très bien. Ça fonctionne toujours bien. Il y a 10 ans maintenant, cette installation permanente. Et l'unique chose qu'il faut régler, c'est le temps hivernal et le temps d'été, ce changement d'une heure. Ça, c'est le commencement de composition aussi. C'est le son plus clair que vous pouvez entendre là à Masmoka. Alors, c'est tous les sons originaux. L'unique chose que j'ai fait, que j'ai coupé le commencement ou j'ai the fade out, I changed the fade out. Mais naturellement, les sons ne sont pas comme ici dans la composition, un après l'autre, mais vous avez déjà une petite idée de ce qu'on écoute tous les 15 minutes. C'est un groupe de sons comme ça. Et à 9h et à 5h, qui est le temps des banquiers, des employés, il y a une petite mélodie qui est chaque jour à 9h, on sait, ah, c'est 9h, alors ça, c'est une chose à part jouer, et c'est un peu ironique. Merci. Je déteste PowerPoint, je pourrais faire beaucoup mieux, mais je n'aime pas. Voilà. Alors ça, c'est Dreaming of a Major Third, c'est le nom de cette pièce. Massachusetts, Massmoka. Et maintenant, j'arrive dans les années 2000, j'ai presque fini. Alors encore, non, c'est trop vite. J'arrive à Bernhard Leitner, qui maintenant, il est très, très connu, il a 70 ans, beaucoup de ces pièces sont dans le musée comme des pièces qui font voir que quelqu'un a commencé à chercher, et c'était en même temps que Max Neuhaus, à s'occuper d'espace et du son dans l'architecture. Et les pièces qu'il fait maintenant, vous voyez déjà, c'est une exposition que nous avons fait ensemble, Bernhard Leitner et moi, dans deux châteaux en Allemagne. Et on avait beaucoup de salles, mais ici c'est un travail. Ce sont des petits haut-parleurs qui travaillent avec des enregistrements de voix chuchotés. Et c'est paraboles. Oui, les paraboles reflètent les sons sur les murs. Alors vous êtes là dans cette salle et tout de suite vous écoutez pas le son des paraboles, mais des murs. De rien. Et c'est quelque chose de très, très simple dans un sens, mais aussi très impressionnant. Et si c'est bien fait, vous promenez entre toutes ces voies et vous voyez la source et quand même, vous savez que ça ne peut pas être vrai que les voies viennent des murs, mais ça semble comme ça. Et ce château aussi, cela a eu une histoire. C'était la source de l'art classique, Goethe, Schiller, ils étaient tous là, aussi Liszt, Chopin, et après les nazis étaient là et ont habité là. Alors c'était une chose très ambiguë. Ambiguë ? Ambiguë ? Ambiguë, oui, ambiguë. Prochain. Et voilà, un autre travail de ce genre-là, naturellement, il fait beaucoup de choses différentes, mais ça, c'est un exemple. C'est des sons de l'eau. Et les haut-parleurs sont toujours dirigés sous les paraboles, mais la réflexion, c'est sur ces surfaces de plastique. Et c'est une maison avec des escaliers, beaucoup d'escaliers. Et c'est des sons d'une chute d'eau, on dit, waterfall, oui, d'une cascade d'eau. Et vous allez, je crois, c'est 13 étages et ça change tout le temps. Et là aussi, vous voyez l'origine, mais quand même, l'idée, c'est vraiment que vous êtes dans une cascade d'eau. C'est très beau. Et c'était un travail qu'il a fait pour le festival Zone Ambiente l'année passée à Berlin. Oh, non, en 2006, c'était 2006. Voilà. Prochain. Alors, Hans-Peter Kuhn, encore vous rappelez, le théâtre, c'est toujours présent maintenant. Un travail au Danemark. Le nom, c'est Inde. Ça veut dire carpet. Carpet, tapis. Ouais, voilà, tapis. Il a mis des petites pièces de tapis colorés et aussi très strictement des lignes de haut-parleurs et aussi des lampes. Et tout ça, cela donne des grids, des gris. Et le son toujours bouge, et vous êtes là, et vous voyez vraiment comme une structure dans l'espace de lumière et aussi de son. Hans-Peter dit aussi on ne peut pas enregistrer ça, comme ça je n'ai pas des exemples. Mais je crois bien que vous pouvez imaginer ce travail qui aussi est très, très grand. Je crois que c'était 80 ou pas l'heure. Vous savez, quand on vieillit, c'est les compositeurs commencent à composer les grandes symphonies, les pièces pour orchestre, Figlas maintenant, des choses très, très grandes. Mais aussi nous, les sound artists, nous commençons à faire des travaux très grands hein, parce qu'on peut faire comme les compositeurs classiques, traditionnels. Et comme ça, maintenant, je vous fais voir aussi un travail à moi qui est dans les dimensions très, très grand. C'est pas ça? Voilà. Il y a un bâtiment industriel en Allemagne qui s'appelle Gasometer. C'était une fois pour avoir le gaz dedans. L'auteur, c'est son maître, et l'accession circulaire, c'est soit son maître. Ils font une fois par an des expositions très, très, très grandes. Bilviola était là, Christ était là. Mais pour tous les autres 11 mois, il n'y avait rien que le bâtiment. Et ils m'ont demandé, tu peux faire quelque chose? Et j'ai dit non, c'est pas possible. Parce que c'est comme une peau de métal qui reflète toutes les choses de l'extérieur. Et on ne pouvait pas fixer rien. Ce n'était pas permis, naturellement, de faire les plus petits trous. Aussi, c'est froid, c'est extrêmement gris. Et bon, après, j'ai pensé à une chose, je ne sais pas comment, j'ai pensé à l'opéra de Mozart, la flûte magique, et peut-être vous avez vu une mise en scène de Schinkel, un architecte du XVIIIe siècle, et c'est toutes les étoiles. Et j'ai pensé, j'aimerais bien changer complètement cet édifice, si je peux. C'était un travail de 2 ans, très très long vraiment. Alors, ce qu'on a fait, on a mis sur les où ces plaques de métal vont ensemble. On a mis chaque fois une lumière et ça donne en tous 180 lumières, toujours dans une distance de 7 mètres. Et alors, quant à la lumière, alors on a dû développer des magnettes spéciales pour les mettre au mur parce qu'on ne pouvait pas les fixer autrement. Oui, ce n'était pas facile de réaliser ces idées. Et aussi, je ne savais pas si ça va vraiment marcher jusqu'au dernier moment. Ce n'était pas mal d'argent qu'ils ont dépensé pour tous ces travaux et je n'étais pas sûre. Alors, ça, c'est des choses qui sont différentes de travailler dans le studio et faire la peinture, parce que si vous voulez vraiment faire du son dans l'espace, c'est toujours le risque. Il faut accepter le risque, je dois dire. Aussi, si vous êtes à l'extérieur et ça commence à pleuvoir ou à détruire vos œuvres, c'est quelque chose qu'on voit dans l'espace. Il faut considérer que l'espace est une part du travail et ça peut être un ami ou le contraire, mais c'est toujours au moins 50% du travail, ça. Et alors, pour le son, l'acoustique est tellement drôle qu'il y a beaucoup des échos, mais on ne peut pas les calculer. Je suis allée là avec un ingénieur spécialisé des espaces du Berlin. Il a dit, ah, je te fais quelque chose quand le studio, tu peux simuler tout. Il est resté là et il a dit, non, impossible. Alors, ce qu'on a dû faire, on a commencé à faire une composition de 14 canal. Et 7 haut-parleurs sont en bas et 7 haut-parleurs sont en haut, et 100 mètres plus haut, presque. Alors, les sons, vraiment, ils bougent à travers des programmes spatiaux, à travers cet espace. Et surtout, ils se reflètent. Et les sons que j'ai utilisés, ce sont des sons aussi de résonance. Et je crois que je vais les jouer ce soir, parce que maintenant, j'ai déjà présenté beaucoup de choses. Et je voudrais bien laisser ça un peu plus long. Alors, ce soir, je vais vous jouer 2 minutes de cette composition. La prochaine. Voilà, il y a aussi un ascenseur, alors vous pouvez aller tout en haut et vous pouvez regarder en bas et vous écoutez aussi la composition dans une manière différente et vous voyez différente. Tout ça, ça veut dire que c'est devenu une coupole et quand même ils peuvent faire toutes leurs expositions parce qu'avec deux petits trucs là, des guichets, vous avez enlevé la lumière et le son, et c'est le gazomètre normal, comme toujours. Encore? Et voilà, c'est la dernière pièce, et après, j'ai fini pour cet après-midi. C'est un travail que j'ai fait l'année passée, aussi pour un espace très spécial, et c'est la Biennale de Sharjah, aux Émirats arabes. C'est à côté de Dubaï et c'est toujours un émirat, on dit émirat, un émirat, oui. Très sévère, c'est-à-dire, comme femme, il faut se couvrir. Il n'y a pas d'alcool, pas du tout. C'est vraiment, on boit à la prison si on même possède de l'alcool. Alors pour tous les artistes, les 80 artistes qui étaient invités, c'était un problème parce que chaque soir, on devait aller à Dubaï pour voir. Mais comme ils n'ont rien pour les touristes maintenant, ils ont décidé d'offrir de la culture et ils font cette biennale. Quant à l'architecture, il n'y a plus rien d'original parce que 100 années passées, c'était un petit village. Après, c'était une place pour les bombes britanniques pour les essayer là, dans le désert. Et depuis 20 ans, il y a de l'huile, il y a du gaz et on a construit, construit, construit. Toute la ville, la cité, c'est un unique chantier de son, de construction. Et ce que vous voyez, c'est refait une petite pièce, une petite place, comme c'était peut-être 50 années passées, ils ne savent même plus. C'est mort parce que personne n'habite là. C'est très drôle, mais ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai pensé, j'étais là 2 fois, j'ai pensé de mettre une espèce de. Vous savez, il y a les muezzins qui chantent là. C'est l'autre chose très impressionnante. Tout le temps, tous les heures, les 2 heures, il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs qui annoncent les services dans les mosques. Alors, j'ai fait quelque chose de très. Technique. Alors, 4 haut-parleurs, mais de très bonne qualité. Je les ai essayés en Allemagne avant, avec des sons qui venaient comme des paysages sonores, disons, chaque 2 ou 3 minutes pour une période assez courte et après, ils sont disparus. Alors, quand ils étaient disparus, il n'y avait pas de silence, mais tous les sons originaux de la construction, de la ville, tous les trafics pas réglés. Et je pensais de mettre des sons qui étaient là une fois, alors les sons originaux. C'était le vent, c'était la mer, c'était peut-être les champs. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose, naturellement? Non, il n'y avait rien. À la fin, après une recherche très, très forte à la radio, on a trouvé une vieille bande magnétique hein, qui ne savait pas qu'est-ce que c'était, on m'a donné. Et c'était vraiment des chants, des choses originaux que j'avais trouvées. Et de temps en temps, alors, ces choses-là sont venues. Les gens étaient vraiment, comment dire, c'était quelque chose de drôle pour eux d'écouter leur passé. Naturellement, ce n'était pas le passé comme il s'était, parce que personne ne le sait. Mais c'était des choses que peut-être une fois étaient là, et c'est comme dire l'acoustique était différente. Mais beaucoup de choses aussi étaient inventées de moi, alors on ne pouvait pas savoir vraiment si c'était vrai ou pas. Et je vais vous jouer une de ces petits paysages sonores. Ah, et voilà, alors il y a beaucoup de travailleurs là qui sont du Pakistan ou autres. Il y avait des personnes qui venaient toujours le soir à écouter ces paysages sonores. Toujours les mêmes trois, mon public plus aimé. sentez qu'après ces premiers sons très, très drôles, il y a les sons du maire que j'ai vraiment enregistré dans les Émirats, dans un autre lieu. Et comme ça, il y avait cette chose que j'aime toujours, c'est-à-dire une réalité qui n'est pas une réalité, mais c'est le public, c'est la personne même qui doit décider. Est-ce que j'écoute, c'est vraiment que je connais ou c'est seulement dans ma fantaisie ou c'est quelque chose que j'ai imaginé. Et avec les sons de l'induction magnétique, par exemple, vous avez toujours écouté les sons réels, mais aussi les sons dans le casque. Avec les sons des ultrasoniques, avec les sons des cellules, des cellules solaires. C'était la nature d'un côté et d'autre côté, les sons que j'avais composés. Et aussi ici, c'était un mix entre les sons réels et les sons que j'avais mis avec ces quatre haut-parleurs. Mais quand même, on ne peut jamais dire ce qui est réel ou pas. Ça dépend un peu aussi de notre vue. Voilà, merci. Je ne peux plus parler le français.